Congo écoute. Congo écoute pour la restauration de l'Église du Congo en prenant le changement de mentalité au sein de l'Église. Suivez Congo écoute, présenté par le pasteur Marcelo Tounassi, tous les vendredis de 9h30 à 10h sur les antennes de la radio Parole Éternelle. Congo écoute pour le renouvellement même de l'intelligence telle que voulue par notre Seigneur Jésus-Christ. Congo écoute, votre émission.
Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans votre émission, notre émission Congo écoute. Aujourd'hui, Dieu nous a mis à cœur de vous parler sur la puissance des aumônes, la puissance des aumônes. Dans notre nation, nous remarquons qu'il y a un problème au sujet de l'aumône, un problème de renouvellement de l'intelligence. Nous considérons souvent que donner l'aumône aux pauvres est une source de blocage, parce que nous attribuons à chaque pauvre une sorcellerie. Nous supposons que tout pauvre est sorcier, ce qui fait que nous sommes bloqués pour donner nos aumônes et nous nous privons des bénédictions inhérentes aux aumônes. Qu'est-ce que l'aumône ? L'aumône, c'est un acte de bienveillance. C'est un acte philanthropique et caritatif. Je répète, l'aumône est un acte de bienfaisance, un acte philanthropique et caritatif. C'est l'offrande faite à Dieu au travers des pauvres, au travers des indigents, au travers des malheureux, des veuves et orphelins, au travers de ceux qui sont économiquement faibles. Et là déjà, j'aimerais dire que lorsque tu donnes aux pauvres, tu ne donnes pas seulement aux pauvres, tu donnes aussi à Dieu, mais au travers du pauvre. Et là déjà, nous devons changer notre manière de donner aux pauvres. Tu verras que lorsque tu te promènes, tu peux avoir un billet de 20 dollars, de 5 dollars, de 10, de 500 francs, de 250 francs. Quand un pauvre en cours de route te demande quelque chose, tu es toujours tenté, poussé à lui donner 50 francs. Et nous n'imaginons pas qu'en cours de route, tu peux donner 10 dollars, 5 dollars à un pauvre. Pourquoi ? Parce que nous regardons le pauvre sans voir au travers du pauvre Dieu qui n'est pas pauvre. Et en Israël, les pauvres avaient une grande place. Les pauvres étaient respectés. C'est pourquoi en Israël, on leur laissait ce qui restait après la moisson. Lorsqu'un homme avait un champ, qu'il sémait, qu'il moissonnait, il ne lui était pas permis de tout moissonner. Tout ce qui tombait, tout ce qui restait, était réservé aux pauvres en Israël. Tous les 3 ans, la dîme leur était abandonnée. Ce n'était pas seulement le lévite et le sacrificateur qui avaient part à la dîme, mais aussi le pauvre, l'indigent, l'étranger, la veuve et l'orphelin. Les produits même de la terre leur étaient abandonnés à la 7e année, l'année sabbatique. Lorsqu'on se reposait, les produits de la terre leur étaient réservés. Quoiqu'ils n'avaient pas de champs, le produit de la terre leur était réservé. Il était obligatoire de les inviter aux fêtes et banquets annuels. Lorsqu'on organisait des banquets et des fêtes annuelles, il était obligatoire d'inviter à la table, à la fête, les pauvres. Dans le Nouveau Testament, nous voyons cela aussi. Dans Actes des Apôtres, 6, versets 1 à 3, nous voyons que les diacres ont été institués, établis à cause des pauvres. La Bible dit, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes grecs murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. C'est là que les diacres sont nés. Ils sont nés parce que l'église primitive s'occupait des pauvres. Ce n'était pas seulement une église spirituelle, ce n'était pas seulement une église accompagnée des signes, des prodiges et des miracles, de puissants enseignements, de jeûnes et de prières. C'était aussi une église qui s'occupait des veuves, des orphelins, des pauvres. Et les diacres ont été établis d'abord pour gérer les dons, les aumônes, qui était donné aux pauvres parce que les veuves se plaignaient qu'il y avait de l'injustice. C'est pourquoi les diacres ont été établis, parce que l'Église primitive avait à cœur de prendre soin des veuves, des orphelins, des pauvres. Donc l'Église primitive avait la connaissance et la révélation de la puissance des aumônes. Et l'Église aujourd'hui de notre nation doit redécouvrir ce secret. Nous imitons souvent l'Église primitive dans le domaine des miracles, des prodiges, de la prière, sans imiter cette Église dans le domaine des aumônes, dans le domaine de l'amour, dans le domaine du partage, de la charité, dans le domaine philanthropique, caritatif, dans la bienfaisance et dans la manière de donner l'aumône. Nous avons beaucoup de versets qui en parlent, Jésus-Christ lui-même en a parlé. Nous allons lire Luc 11, versets 37 à 42. Il y a beaucoup de principes dans le domaine des aumônes que nous allons partager à présent. Luc 11, versets 37 à 42. La Bible dit « Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans ? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici toutes choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. » Là, il y a un principe dans le domaine des aumônes. C'est que avant de donner ton aumône, toi-même tu dois te donner en aumône. C'est-à-dire, avant de donner ton offrande, toi-même tu dois te donner à Dieu et être une offrande. Lorsque tu te précipites à aider les pauvres sans donner ta vie à Dieu, sans vivre dans la sainteté, vivre dans la justice, sans devenir un enfant de Dieu, tes libéralités sont bonnes, ça va aider les pauvres, ça va donner de la joie, mais cela n'a aucune répercussion sur ton éternité. Avant de laver l'extérieur de la coupe, c'est-à-dire faire des bonnes œuvres, partager, donner, la première chose que Dieu te demande, c'est de laver l'intérieur de ta coupe, c'est de te mettre en règle avec lui, de croire en son Fils Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, et marcher dans l'obéissance à sa parole, marcher dans la crainte, dans la discipline, dans la consécration, et ensuite tu vas laver l'extérieur de la coupe, ça veut dire tu vas donner des offrandes, tu vas donner des dîmes, tu vas donner des aumônes. Lorsque tu es fidèle dans tes dîmes, dans tes aumônes, dans tes offrandes, sans vivre dans la crainte de Dieu, cela n'a aucun impact sur l'éternité. Beaucoup de gens refusent de se mettre en règle avec Dieu au nom des aumônes, au nom des offrandes et des dîmes qu'ils donnent. Bien-aimés, on ne se moque pas de Dieu. Dieu est riche, Dieu a tout. Ce n'est pas avec 2 000 $, 3 000 $ que tu donnes que tu vas hériter le ciel. Tout d'abord, il te faudrait te mettre en règle avec Dieu, laver l'intérieur de la coupe, ensuite laver l'extérieur de la coupe. Il faudrait d'abord que tu puisses toi-même t'offrir à Dieu avant de lui offrir quoi que ce soit. Sinon, ton offrande n'a pas d'impact et de répercussion sur l'éternité. C'est ce que les pharisiens faisaient, très fidèles dans les dîmes, très fidèles dans les aumônes, très fidèles dans les offrandes, mais vivant dans l'injustice, dans l'infidélité, dans le péché, dans l'orgueil spirituel, dans l'orgueil social. La parole encore nous parle dans Acte 10, versets 1 à 6. C'est l'histoire de Corneille. La Bible dit: il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce que Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon corroyeur dont la maison est près de la mer. » Et là, la suite de l'histoire nous dit que Pierre avait refusé d'aller dans la maison d'un infidèle et Dieu lui a montré une vision qui se retrouvait en train de manger des choses impures. Et Dieu lui a dit « Tu manges » et Pierre avait refusé. Dieu lui a dit « Tu n'appelleras pas impur ce que j'appelle pur » pour dire que Dieu voulait aussi sauver. C'est un circoncis au travers du ministère de Pierre. Pierre est allé dans la maison de Corneille et pendant qu'il parlait de Jésus-Christ, le Saint-Esprit est descendu sur lui et il était baptisé du Saint-Esprit, lui et toute sa maison. Ce passage nous enseigne une chose, que la prière doit être accompagnée des aumônes. Il ne faut pas seulement prier, il faut aussi donner des aumônes. Corneille ne priait pas continuellement seulement, il donnait aussi des aumônes. Une spiritualité qui ne consiste qu'à prier sans faire le bien est une spiritualité déséquilibrée. D'ailleurs, plus on grandit spirituellement, plus on grandit dans l'amour. On reconnaît la spiritualité d'un homme, pas seulement par la profondeur de ses prières, mais aussi par la grandeur de son amour. Et lorsqu'on aime, on partage. Et on partage avec des pauvres, on partage avec des hommes qu'on ne connaît pas. Pas seulement des membres de nos familles, des frères de notre église, mais de tout homme. On partage avec tout homme créé à l'image de Dieu. Corneille était un homme de prière, mais aussi un homme qui donnait des aumônes. Et cela a eu comme conséquence dans sa vie que Dieu a exaucé ses prières et il a vu ses aumônes. Et il a envoyé un ange dans sa maison à cause de ses prières et à cause de ses aumônes. Il a envoyé l'apôtre Pierre dans sa maison à cause de ses prières et à cause de ses aumônes. Et il a été baptisé du Saint-Esprit à cause de ses prières et à cause de ses aumônes. Non pas que par l'aumône il a acheté le Saint-Esprit, car nous ne pouvons pas acheter le Saint-Esprit et nous ne pouvons rien acheter de Dieu. Mais les aumônes étaient une preuve de son amour, étaient une preuve de sa soif de Dieu. C'était un homme qui manifestait sa soif de Dieu par des prières et par des aumônes. Et il fut baptisé du Saint-Esprit. Par les aumônes, il a pu avoir ce qu'il ne pouvait jamais avoir. On n'achète pas le baptême du Saint-Esprit, mais par ses aumônes et par ses prières. Il est entré dans une dimension supérieure qu'il ne pouvait avoir par ses propres efforts. Il a su être un homme spirituel devant Dieu, mais aussi un homme rempli d'amour devant les hommes. Et sa vie fut totalement changée, car il commença à parler en d'autres langues. Et Acte 24, verset 17 nous dit « Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. » Paul, malgré qu'il était un grand apôtre, donnait ses aumônes. Malgré qu'il avait une grande révélation de Jésus-Christ, donnait ses aumônes. Malgré qu'il était un puissant enseignant de la parole, il donnait ses aumônes. Malgré qu'il avait une forte onction, il donnait ses aumônes. Ce passage nous enseigne que, malgré notre niveau spirituel, malgré nos responsabilités dans l'Église, dans l'œuvre de Dieu, nous ne sommes pas exemptés des aumônes. Malgré nos titres, nous ne sommes pas exemptés des aumônes. D'ailleurs, nous devons être des modèles dans ce domaine aussi, pas seulement dans le domaine de la prédication, des miracles, des prodiges, de la spiritualité, mais aussi dans le domaine des aumônes. Nous marchons sur les traces des apôtres et ne devons pas seulement les imiter dans les domaines qui nous plaisent, mais les imiter dans tous les domaines. Paul donnait ses offrandes et donnait ses aumônes. Souvent dans les églises, lorsque quelqu'un a des responsabilités, il pense qu'il est exempté de donner. Il est exempté d'offrir. Il est exempté de manifester l'amour en partageant ses biens. Il dit « c'est pour les autres ». Moi, je prie déjà beaucoup, je suis intercesseur, je suis gagneur d'âme, je suis protocolaire. Je suis modérateur, je suis président du culte, je suis président de la jeunesse, je suis président de ceci, je suis prédicateur, je suis enseignant, je suis pasteur. Mais là, la Bible nous montre clairement que malgré son apostolat, Paul veillait à donner ses aumônes. Matthieu 6 nous enseigne encore ceci. Matthieu 6, 1 à 4 nous parle des pharisiens qui manifestaient de l'orgueil dans leur manière de donner l'aumône. La Bible dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lorsque donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. L'aumône se donne avec amour, avec humilité et discrétion, de peur de perdre ta récompense devant Dieu. Il ne faut pas se servir des pauvres pour amplifier ton moi. Il ne faut pas te servir des pauvres pour être acclamé des hommes. Il ne faut pas que lorsque ta main droite a donné, que ta main gauche le sache. Il ne faudrait pas que tu cries partout que tu aides les pauvres, que tu aides les malheureux. Et souvent nous tombons dans ce piège de toujours aller crier sur le toit les choses que nous faisons en secret, d'aller toujours crier sur le toit les choses que nous faisons pour les autres. Une fois que les hommes t'ont acclamé, ce sera toute ta récompense. Même si les gens ne croient pas que tu aides, cela ne doit pas te pousser à tomber dans la vantardise. Beaucoup aident par vantardise, par concurrence, pour se faire un nom, pour être respecté dans la société. Et d'autres même s'enrichissent sur le dos des pauvres. Certaines ONG ne sont pas des ONG, ce sont des entreprises. Parce que comment peux-tu dire que tu as une ONG, on t'envoie 10 000 dollars pour les pauvres, tu utilises 8 000 et tu leur donnes 2 000? Comment se fait-il que tu dis que tu es une ONG pour les veuves et tu t'enrichis sur le dos des veuves? Beaucoup d'ONG sont maudites. Beaucoup d'ONG ne sont pas des ONG. C'est du business sur le dos des pauvres, sur le dos des sans domicile fixe, sur le dos des veuves et des orphelins, sur le dos des réfugiés. Et quiconque s'enrichit sur le dos des pauvres, sur le dos des orphelins, des réfugiés, des sans domicile fixe est maudit. Et maudit, et maudit. Nous attirons la malédiction dans nos vies par des fausses ONG. Si l'ONG sur laquelle Dieu t'a établi est réellement une ONG qui s'occupe des pauvres, continue. Mais si tu t'enrichis sur le dos des pauvres, Dieu te demandera des comptes au dernier jour. Il en est de même pour celui qui sert Dieu pour s'enrichir, celui qui veut le ministère pour s'enrichir. Il rendra compte à Dieu. La richesse ne doit pas être le but du ministère. La richesse ne doit pas être le but de l'ONG. Mais si Dieu décide de te bénir à sa manière, là, c'est bien. Mais si le but de prêcher l'évangile, le but d'une ONG, c'est l'enrichissement personnel, ça, c'est vraiment une source de malédiction. Les pharisiens donnaient les aumônes pour leur gloire. Les pharisiens s'occupaient des pauvres pour être vus. Les pharisiens s'occupaient des pauvres pour être adulés, pour se faire un nom. Et toi, pourquoi tu t'occupes des pauvres? Si tes motivations sont pures, continue. Mais si tes motivations sont impures, change, réponds-toi et aide les pauvres par amour et pour la gloire de Dieu. Dieu est au ciel et il sonde les cœurs et les reins. Rien n'est caché au-devant de lui. Et il sait clairement et précisément ce qui motive nos actes et nos actions. Il ne faut pas non plus abuser sexuellement des pauvres. Nous voyons dans des familles des hommes qui abusent de leur nièce parce qu'ils payent les études de la nièce. Ils obligent la nièce d'avoir des relations intimes avec lui. Des hommes qui utilisent leurs richesses pour rendre les autres esclaves. Parce qu'il paye les études, il rend les autres esclaves. Parce qu'il nourrit, il rend les autres esclaves. Il veut devenir le dieu des autres. Dans certaines familles, il y a des hommes qui jouent au dieu parce qu'il est le seul riche Et c'est lui qui doit payer la maison de celui-ci, il doit payer les études de ce cousin, de cette cousine, et en retour, il réclame l'adoration. En retour, il réclame des relations intimes. En retour, il veut qu'on lui permette tout. Bien-aimé, si tu fais cela, sache que Dieu te redemandera le sang de ces orphelins, de ces orphelines qu'il a mis sous ta charge, afin que tu les bénisses, que tu les aides, non point pour que tu les maltraites. Et j'aime l'histoire de Tabitha dans Acte 9, Acte 9, verset 36 à 42. C'était une femme merveilleuse. Lisons cette histoire, Acte 9, 36 à 42. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent deux hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde et se mit à genoux et pria, puis se tourna vers le corps. Il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux, ayant vu Pierre. Elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Cette femme avait comme habitude de faire le bien. Et un jour, elle est tombée malade et elle est morte. Mais le souvenir de son amour a changé les malheureux en intercesseurs. Ils ont prié pour qu'elle ressuscite. Ils ont prié pour que Pierre vienne prier pour elle. Et en réponse à leur prière, Dieu a ressuscité Tabitha. Ce n'est pas qu'elle a acheté la résurrection, mais son amour avait touché les pauvres et avait poussé les pauvres à prier pour eux. Plusieurs hommes riches, femmes riches, se font maudire par les pauvres à cause de leur égoïsme. Mais cette femme avait les pauvres comme intercesseur, avait le pauvre comme témoin de son amour et de sa bonté. Il pleurait en montrant ses vêtements, il pleurait en montrant ses bonnes œuvres. Et Pierre a prié et Dieu a exaucé la prière parce que c'était une femme de bien, c'était une femme remplie d'amour et cet amour se démontrait par des œuvres, par des aumônes. Elle a eu une longue vie, elle a eu la guérison, la résurrection à cause de ses aumônes. Ce n'est pas qu'elle a acheté la résurrection, mais ses aumônes ont fait que des hommes soient touchés et amenés à prier. Je pense que si c'était une femme méchante, on allait l'enterrer directement. Mais si on l'a gardée sans l'enterrer et qu'on est allé chercher un homme de Dieu, c'est parce que le peuple avait des bons souvenirs de cette femme. Mon frère, le jour que tu mourras, est-ce que tu vas laisser des souvenirs dans les cœurs des veuves, dans les cœurs des orphelins? Le jour que tu quitteras ce monde, est-ce qu'il y a des hommes qui vont se lever qui diront, si j'ai étudié, c'est à cause de lui. Si je suis devenu un grand homme, c'est à cause de lui. Si je suis devenu ceci, c'est par lui. Dieu est passé par lui pour me bénir. Est-ce que les hommes présenteront les choses que tu as faites dans leur vie? Les veuves et les orphelins ont présenté les vêtements, ont présenté l'amour de Dorcas. Et qu'est-ce que les hommes présenteront le jour de ta mort? Pense-y, parce que nous ne sommes pas éternels, nous quitterons ce monde et Dieu nous donne les biens matériels pour bénir les autres. Nous sommes bénis pour bénir. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Et il y a encore un homme merveilleux dans la Bible que j'aime lire au sujet de la puissance des aumônes. C'est Job, Job 29, versets 12 à 16, nous parle de Job, qui était l'homme le plus intègre, l'homme le plus riche, mais c'était un homme qui avait un grand secret. Il était le sauveur des pauvres. Il était le père des orphelins. Nous lisons cela dans Job 29, versets 12 à 16. « Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours, et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. Alléluia. Je brisais la mâchoire de l'injuste et j'arrachais de ses dents la proie. » Ça, c'est Job. Il dit qu'il était le sauveur du pauvre, le sauveur de l'orphelin. La bénédiction du malheureux venait sur lui. Il remplissait de joie le cœur de la veuve. Il était l'œil de l'aveugle, le pied du boiteux, le père des misérables. Et il examinait la cause des inconnus. Si tu veux être béni, fais ces choses. Sauve le pauvre, sauve l'orphelin. Fais que le malheureux te bénisse et intercède pour toi. Remplis de joie le cœur de la veuve. Deviens les yeux de l'aveugle. Deviens le pied du boiteux. Deviens le père des misérables. Deviens l'examinateur des causes inconnues. Et Job ajoute dans Job 31, versets 16 à 22, il dit « Si je refusais aux pauvres ce qu'ils demandaient, si j'ai fait languir les yeux de l'aveugle, si j'ai mangé seul mon pain sans que l'orphelin en ait eu sa part, moi qui l'ai dès ma jeunesse élevé comme un père, moi qui dès ma naissance ai soutenu la veuve, si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture, sans que ses reins m'aient béni, sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux, si j'ai levé la main contre l'orphelin, parce que je me sentais un appui dans les juges, que mon épaule se détache de sa jointure, que mon bras tombe et qu'il se brise. » Job ne refusait pas aux pauvres ce qu'ils lui demandaient. Il ne faisait jamais souffrir la veuve. Il ne mangeait pas seul, mais il partageait avec l'orphelin. Il a fait dès sa jeunesse. N'attend pas devenir riche ou grand pour le faire. Parce que l'amour peut s'exprimer même dans la petitesse, même dans la pauvreté. N'attends pas de devenir grand pour exprimer ton amour. Job dit qu'il faisait ces choses dès sa jeunesse, et les habitudes acquises dans la jeunesse perdurent même dans la vieillesse. Il partageait son vêtement avec le malheureux. Il recherchait la bénédiction du malheureux, car le malheureux n'est pas une source de malédiction, il n'est pas une source de blocage, il n'est pas une source de sorcellerie, il n'est pas une source d'envoûtement, mais il est une source de bénédiction. Job recherchait la bénédiction du malheureux. Il n'a jamais utilisé sa position pour maltraiter le pauvre, mais pour l'aider. Et là, j'aimerais parler même à nos familles congolaises où on voit un homme mourir et après sa mort, on dépouille la veuve et l'orphelin. Et certains même, ce sont des chrétiens, des gens qui vont dans les églises, mais qui dépouillent la veuve et l'orphelin. Après la mort du père, ils dépouillent la veuve et l'orphelin au nom de la coutume. Une telle coutume est une coutume maudite, est une coutume du diable, parce que Dieu respecte la veuve, il respecte l'orphelin. Lorsqu'un homme se bat et travaille, c'est d'abord pour sa femme, pour ses enfants, et ensuite pour sa famille élargie, et non le contraire. Chaque fois, mon frère, que tu as utilisé ta position de l'oncle, ta position du père, ta position de la mère, de la sœur, du défunt, pour maltraiter la veuve et l'orphelin, tu as attiré une malédiction générationnelle dans ta vie. Apprenons à donner la joie aux veuves et orphelins, car nous aussi nous partirons, nous laisserons des veuves, nous laisserons des orphelins, et ce que tu fais arriver dans la vie des autres, Dieu le fera également arriver dans ta vie. La Bible dit, dans Psaume 34, versets 6 à 7, « Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Donc aussi, quand le malheureux s'y crie pour te bénir, Dieu l'entend et il l'exauce et il accomplit cette bénédiction dans ta vie. Mais quand tu maltraites le malheureux et qu'il crie vers l'Éternel, Dieu l'entendra aussi. Quand le cri du malheureux monte vers Dieu, ça doit être un cri de bénédiction. Un cri qui réclame que Dieu t'élève, qui te bénisse et qui te rende au centuple de ce que tu as fait pour lui. Et que cela ne soit pas pour que Dieu te maudisse. Plusieurs personnes ont commencé à chuter lorsque les malheureux ont commencé à crier contre eux devant l'Éternel. Et plusieurs personnes ont commencé à monter être bénies lorsque les malheureux ont commencé à crier devant Dieu pour leur bénédiction. Proverbe 19, verset 17 nous dit: celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Proverbe 19, verset 17 dit: celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Lorsque tu as pitié du pauvre, lorsque tu donnes ton aumône, tu prêtes à l'Éternel. Et Dieu n'a la dette de personne, il n'est le débiteur de personne, et il te le rendra selon ton œuvre. Et comme c'est un roi, il va te le rendre comme un roi, il va te le rendre royalement. Plusieurs personnes ayant compris cela bénissent les malheureux, s'investissent dans le malheureux. C'est vrai, il ne faut pas le faire pour recevoir quelque chose en retour. Il faut le faire par amour. Mais sache aussi que Dieu n'a la dette de personne. Il te récompensera et il te bénira, car il paye toujours ses dettes. Plusieurs personnes, quand ils entendent de tels enseignements, se réfugient dans la paresse et la dépendance. Et ils disent gloire à Dieu. Enfin, un pasteur qui dit, qui parle de nous. Frère, Dieu te demande de travailler. Dieu te demande de travailler. Il ne faut pas tomber dans la paresse et la pauvreté pour être à la charge des autres. Il ne faut pas tomber dans le parasitisme et la dépendance, mais travailler pour aider les autres. Car c'est la main qui donne qui est bénie et pas celle qui reçoit. Celui qui donne reçoit la bénédiction de celui qui reçoit. C'est pourquoi, toi qui m'écoutes, c'est une responsabilité que tu as de travailler pour bénir les autres. N'attends pas à recevoir, va partager, va donner et tu expérimenteras la puissance de Dieu dans les aumônes. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous donne l'amour pour être des hommes et des femmes qui donnent les aumônes. L'aumône n'est pas source de malédiction, d'envoûtement ni de blocage, mais au contraire, l'aumône est une source de joie, une source de bénédiction. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au micro, c'était votre serviteur, le pasteur Marcelo Jérémy Tounassi de l'église La Compassion, qui est située à Limété 2e rue, quartier industriel numéro 6. Notre numéro de contact est le 081 506 78 81. Que Dieu vous comble de ses grâces. Amen.
Congo écoute. Congo écoute pour la restauration de l'église du Congo, en prenant le changement de mentalité au sein de l'Église. Suivez Congo Écoute, présenté par le pasteur Marcelo Tounassi, tous les vendredis de 9h30 à 10h sur les antennes de la radio Parole Éternelle. Congo Écoute pour le renouvellement même de l'intelligence telle que voulue par notre Seigneur Jésus-Christ. Congo Écoute, votre émission.